Imaginez une carte, une sorte de plan universel, dessiné il y a des milliers d'années et qui expliquerait tout.
Tout.
Absolument tout, du Big Bang jusqu'au fonctionnement le plus intime de notre ADN.
C'est une idée assez vertigineuse, en effet.
C'est un peu fou, hein, mais c'est pourtant le point de départ de notre conversation aujourd'hui, en nous plongeant dans des extraits de « Alchimie des énergies » de Jean-Pierre Guiliani.
Oui, et cette idée, qui peut paraître folle, elle est vraiment au cœur de l'énergétique traditionnelle chinoise. L'ouvrage nous guide à travers cette vision où, en fait, le corps humain n'est pas du tout une machine, c'est un microcosme.
Un reflet de l'univers.
Exactement, un reflet exact de l'univers. L'auteur propose d'ailleurs une approche qu'il nomme la synergétique.
La synergétique.
Oui, l'idée c'est de créer un pont entre cette sagesse ancienne qu'il associe au cœur, le xin en chinois, et une pratique moderne, rigoureuse et éthique.
D'accord. Alors, pour comprendre cette carte du corps, il faut commencer par celle de l'univers. Remontons au tout début. Ce fameux vide originaire, le taï. Ça sonne un peu comme le néant.
C'est le piège, ce n'est pas le néant. Il faut l'imaginer comme un vide plein.
Ah, ça commence bien. Un vide plein.
Oui, enfin, c'est une potentialité pure, un silence qui contient déjà toutes les notes de musique possibles, si vous voulez. Et rien n'est manifesté, mais tout est là, en germe.
Et pour que quelque chose apparaisse.
Il faut que ce potentiel se divise, qu'il se polarise. C'est là que naissent les deux forces primordiales, le yin, symbolisé par un trait brisé, et le yang, un trait plein.
Les deux briques de base de la création.
C'est ça, le 0 et le 1 de l'univers, en quelque sorte.
D'accord. Et à partir de là, j'imagine qu'on commence à construire des choses plus complexes.
C'est exactement un jeu de construction cosmique. Ces deux traits de base, les monogrammes, ils se combinent entre eux.
Yin avec yin, yin avec yang.
Voilà, yang avec yin et yang avec yang. Du coup, on obtient quatre figures à deux traits, les bigrammes.
D'accord.
Et puis on recommence. On combine ces quatre bigrammes avec à nouveau un trait yin ou yang, ce qui nous donne huit figures à trois traits.
Les fameux trigrammes, les bagua.
Exactement.
Je vois la logique, on double à chaque fois. Donc si on continue, on combine les huit trigrammes entre eux et on arrive à...
64. On arrive à 64 combinaisons de six traits, les hexagrammes du Yi Jing. Et selon cette tradition, ces 64 figures, ce ne sont pas juste des symboles abstraits. Hein.
Non, c'est plus que ça.
Beaucoup plus. Elles représentent la totalité des archétypes, des lois, des processus qui organisent la vie. De la formation d'une galaxie à la croissance d'une fleur.
Attendez une seconde. 64, ce chiffre, ça me dit quelque chose. Vous n'êtes pas en train de me dire que cette structure de 64 figures, vieille de millénaires, correspondrait à quelque chose dans notre biologie moderne?
C'est là que ça devient absolument troublant. Notre code génétique, le langage de notre ADN, il est écrit avec des mots de trois lettres.
Les codons.
Les codons. Et il y en a exactement...
64.
64 codons possibles.
C'est une coïncidence complètement dingue. Ou alors?
Ou alors, ça n'en est pas une. Et l'analogie va encore plus loin. La tradition chinoise décrit quatre énergies fondamentales à la base des bigrammes.
Oui.
Des travaux cités dans l'ouvrage, notamment ceux de Jacques Pialou, les désignent par les lettres T, G, C, A.
T, G, C, A. Thymine, guanine, cytosine, adénine. Les quatre bases de notre ADN.
Stupéfiant, n'est-ce pas? On aurait donc, dans ces textes anciens, une description archétypale de la structure même de notre code génétique.
C'est incroyable de penser que ce langage binaire du cosmos, yin-yang, se retrouve encodé en nous au plus profond. Et il me semble qu'il y a un autre lien, cette fois avec notre monde moderne.
Oui, tout à fait. Le philosophe et mathématicien Leibniz, en cherchant un langage universel, il aurait étudié ces trigrammes chinois.
Et il en a fait quoi?
Il a associé le trait brisé yin au 0 et le trait plein yang au 1. Et il a, comme ça, jeté les bases du système binaire.
Le langage de tous nos ordinateurs.
De toute notre technologie, ça relie la Silicon Valley à la Chine antique. C'est assez vertigineux, oui.
Complètement. Alors, si cette carte décrit l'univers et notre ADN, comment est-ce qu'on l'applique à nous, à notre corps? Le livre propose une image pour ça, je crois.
Oui, une métaphore très simple et très puissante pour ne pas se perdre. Le corps humain vu comme un bâtiment à trois étages. Une architecture énergétique.
Parfait. Alors, allons-y. Commençons par le rez-de-chaussée, le premier étage. La salle des machines, j'imagine.
C'est tout à fait ça. C'est l'étage de la production. L'usine, on y trouve ce qu'on appelle les trois foyers.
D'accord.
Et cette usine, elle transforme deux matières premières. D'un côté, l'air qu'on respire, le qing-qi, et de l'autre, l'essence des aliments, le gu-qi.
L'énergie du ciel et l'énergie de la terre.
C'est ça. C'est là qu'on fabrique notre énergie vitale. C'est pour ça que les pathologies qui touchent ce niveau sont souvent chroniques. On touche à la source du carburant.
Logique. Bon, l'usine du rez-de-chaussée tourne à plein régime. Mais une énergie brute, non contrôlée, ça peut être le chaos. Il faut bien un centre de contrôle, non? Le deuxième étage.
C'est précisément son rôle. Le deuxième étage, c'est le centre de régulation et de distribution. Il est géré par un système très profond, les 8 merveilleux vaisseaux.
Le mont est Taizan. Prometteur.
Il faut les voir comme des réservoirs, des barrages qui gèrent les grandes crues ou les sécheresses énergétiques du corps. Ils stockent le surplus et redistribuent quand il y a un manque. C'est un système de contrôle très fin, un peu comme notre système endocrinien.
Et pour passer de l'usine au centre de contrôle, il y a un ascenseur, un mont de charge?
L'ascenseur principal, c'est l'un de ces vaisseaux, le Chongmai. On l'appelle souvent la mère du sang et de l'énergie. C'est lui qui fait monter l'énergie brute du premier étage pour qu'elle soit raffinée, régulée.
Et ensuite distribuée au troisième et dernier étage.
On y arrive.
Le troisième étage, celui de l'utilisation. C'est là que l'énergie est concrètement dépensée au quotidien.
Exactement. Et à cet étage, on a deux grands services, si on veut. Un service qui gère la qualité de l'énergie et un autre qui gère la quantité.
Ah, j'aime bien cette distinction. Alors, le service qualité, c'est quoi?
Le service qualité, il est régi par la théorie des cinq mouvements. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. C'est un système de correspondance incroyablement riche.
Qui lie tout à tout, j'ai l'impression.
Un peu, oui. Chaque mouvement est lié à une saison, une émotion, un organe, une saveur. Il s'assure que l'énergie a la bonne couleur, la bonne vibration pour le moment présent. C'est un aspect très interne, très subtil.
D'accord. Donc si la qualité, c'est la couleur de l'énergie, la quantité, c'est sa livraison.
S'assurer qu'elle arrive au bon endroit, au bon moment.
C'est une excellente analogie. Ce service logistique, il est assuré par les 12 méridiens principaux. Ils forment notre horloge biologique, le fameux cycle circadien.
Ah oui, le pic d'activité de chaque organe sur 2 heures. C'est ça. Le coup de barre de 15 heures, par exemple, c'est souvent un creux dans le méridien de l'intestin grêle. Et ces méridiens, c'est aussi notre première ligne de défense, notre bouclier contre les agressions climatiques, le vent, le froid.
D'accord. Production, régulation, utilisation. Qualité, quantité. L'architecture est claire. Mais revenons à la base. Le yin et le yang. En pratique, face à une douleur, par exemple, comment ça se traduit?
C'est un outil de diagnostic très concret. Une douleur de type yang, c'est tout ce qui est aigu, chaud, rouge, gonflé.
Une inflammation, une entorse récente.
Voilà. Une douleur qui est aggravée par le mouvement, la pression.
Et une douleur yin, c'est l'inverse, j'imagine. Froide, profonde.
Exactement. C'est une douleur chronique, sourde, qui donne une sensation de froid. Elle est souvent améliorée par un mouvement doux ou par de la chaleur. La douleur typique de l'arthrose, quoi.
Et savoir si c'est yin ou yang, ça change tout.
Ça change complètement l'approche. Le livre mentionne d'ailleurs un principe de traitement qui sonne comme un proverbe.
Eh oui. Il ne faut pas tirer la queue du tigre avant d'avoir ouvert la fenêtre. J'adore. Ça veut dire quoi?
C'est une règle d'or. Ça signifie qu'on ne doit jamais chercher à chasser un pervers, disons un excès d'énergie, comme une inflammation yang, sans s'être d'abord assuré que le corps a assez de force pour gérer cette évacuation.
Il faut d'abord renforcer.
Toujours. Il faut tonifier avant de disperser. On ouvre les portes et les fenêtres avant de vouloir vider la maison. On prépare le terrain.
On peut aussi appliquer cette grille yin-yang à notre tempérament général, non? Pour comprendre sa propre constitution.
Tout à fait. Une personne à dominante yang sera plus dans l'action, extravertie, parlera fort, bougera vite.
Aura souvent chaud.
Voilà, et besoin de peu de sommeil. A l'inverse, une personne à dominante yin sera plus calme, introvertie, parlera doucement, préférera l'ombre et aura besoin de plus de repos.
Et il y a un point qui bouscule une idée reçue. On nous parle toujours d'équilibre. Mais le but, ce n'est pas un 50-50 parfait entre yin et yang.
Non, un équilibre 50-50, ce serait l'immobilité, la stase, la mort, en fait. La vie, c'est le mouvement, donc un déséquilibre dynamique.
Et il y a un ratio idéal?
L'harmonie, selon les textes, se situerait autour de 41e de yang pour 7e de yin. Un peu plus de matière, de structure yin, que d'énergie, de fonction yang. C'est un ratio qui se rapproche du nombre d'or d'ailleurs.
Fascinant. Cette vision s'étend même à notre rapport au temps. On connaît les quatre saisons, mais le modèle en compte cinq. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on apprend.
Oui, c'est une question légitime. Cette cinquième saison, c'est la Terre. Mais elle ne se place pas à la suite des autres. Elle se place entre chaque saison.
Comment ça, entre ?
Ce sont quatre périodes de transition de 18 jours. Pendant les 9 premiers, l'énergie de la saison qui s'achève décline. Pendant les 9 suivants, celle de la nouvelle saison monte. Ce sont des moments charnières où notre corps doit s'adapter.
Ce qui donne tout son sens aux cures saisonnières.
Exactement. Elles ont lieu précisément pendant ces intersaisons pour aider le corps dans cette transition.
Et pendant les saisons, les éléments, ils ne vivent pas chacun de leur côté. Il y a une sorte de danse entre eux.
Oui, il y a deux cycles principaux qui assurent l'équilibre. Le cycle d'engendrement, Sheng, où chaque élément nourrit le suivant.
La mer nourrit son enfant, l'eau nourrit le bois nourrit le feu.
C'est ça. Et pour éviter que ça ne s'emballe, il y a le cycle de contrôle, Kei, où chaque élément en contrôle un autre. L'eau éteint le feu fond le métal.
Le livre utilise une métaphore que j'aime bien, celle de l'empereur.
Prenons l'hiver. La saison est associée à l'élément eau et à l'organe rein. Le rein, c'est donc l'empereur de la saison.
Il est aux commandes.
Voilà. Pour que l'empire soit en paix, l'empereur doit être fort. Sa mère, le métal, associé au poumon, doit être au repos. Et son fils, le bois, le foie, doit être plein d'énergie pour préparer le printemps.
C'est tout un système politique à l'intérieur de nous.
Un équilibre des pouvoirs, tout à fait.
Et cette logique de mère-fils, ça s'applique directement à notre assiette.
Oui, et le principe est d'une simplicité remarquable. Chaque mouvement est lié à une saveur. Acide pour le bois, amer pour le feu, doux pour la terre.
Piquant pour le métal et salé pour l'eau.
Exactement. Et une règle simple dit que pour nourrir un organe, on peut consommer un peu de la saveur de sa mère.
Donc, si je veux aider mes poumons à l'automne, qui sont du métal, je devrais manger un peu de la saveur de leur mère, la terre, donc du doux. C'est l'excuse parfaite pour la courge butternut.
C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de ne manger que ça, mais d'introduire cette saveur pour soutenir la transition.
Ce qui ressort de tout ça, c'est une vision du corps qui est à la fois incroyablement structurée, presque mathématique, et en même temps profondément poétique. On est à des années-lumière de l'idée d'une machine.
C'est le message central. Ce code énergétique qui fait écho à notre ADN nous rappelle que tout est interconnecté. Et le modèle des trois étages, production, régulation, utilisation, nous offre une grille de lecture, un outil pratique pour commencer à observer son propre flux énergétique.
Le livre se termine sur une citation d'un grand maître chinois qui est assez déroutante. « Si, quand j'aurai fini d'expliquer le yin-yang, vous avez bien compris, c'est que je me suis mal expliqué. »
C'est une phrase qui invite à l'humilité. Elle nous rappelle que le but final n'est peut-être pas de tout comprendre avec la tête, de tout faire rentrer dans des cases.
Mais plutôt de ressentir les choses.
Oui. La vraie sagesse, c'est peut-être de commencer à ressentir cette danse constante des forces en nous-mêmes et autour de nous.
Ça laisse matière à réflexion. Peut-être que la question n'est pas « qu'est-ce que le yin et le yang ?» mais plutôt « qu'est-ce qui, dans notre propre vie, là, maintenant, relève du yin et qu'est-ce qui relève du yang ?»